Vous écoutez
RMC.
Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RMC et RMC Story, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, on a une pensée ce matin pour les voyageurs qui ont passé la nuit dans deux trains de la ligne Paris-Toulouse, bloqués à cause des orages qui ont provoqué la chute d'un arbre et qui coupent toujours la circulation ce matin dans le Lot jusqu'à 6 heures de retard là au moment où on se parle. Nous serons dans le Tarn dans ce journal où les recherches reprennent au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, vous savez, où Cédric Jubilard a dit avoir enterré sa femme. Et nous serons aussi à La Baule, la cité balnéaire de Loire-Atlantique où des CRS arrivent au renfort là ce matin face aux incivilités constatées pendant les vacances.
La nuit a donc encore été chaotique pour des centaines de voyageurs.
Alors cette fois, c'est pas à cause de la chaleur, c'est à cause des orages qui ont fait tomber un arbre sur la voie ferrée dans le Lot, donc entre les villes de Gourdon et de Souillac précisément. C'est la ligne Paris-Toulouse qui est une des plus problématiques de France d'ailleurs. Les trains ne peuvent plus passer concrètement ce matin. Il y a deux intercités de nuit qui sont bloqués avec jusqu'à 6 heures de retard. Je vous propose d'écouter ce passager qui était dans un train parti hier soir de Toulouse, censé arriver vers 7 heures ce matin à Paris. On lui a passé un coup de fil là tôt ce matin. Il nous raconte l'enfer de son voyage.
De minuit jusqu'à 6 heures du matin, il ne s'est rien passé. Aucune annonce, le train était éteint et on est resté comme ça à se demander ce qui nous arrivait. Il faisait chaud, pas de climatisation. Le chef de train de la SNCF, le contrôleur, a ouvert toutes les fenêtres de toutes les voitures de train. Les passagers de première classe ont eu des boîtes repas, les autres non. Et voilà, on est actuellement dans un train de secours, entre guillemets, arrêté en pleine voie. J'ai pris un train de nuit parce que je dois travailler à Paris ce matin. On va probablement arriver à Paris vers 16 heures. Quel moyen peut sauver ma journée ?
Et la SNCF qu'on a eu au téléphone là il y a quelques minutes seulement nous dit que la reprise du trafic est espérée, seulement espérée pour la fin de matinée. Alors dans la soirée, c'est dans la Loire, à l'autre bout de la France, qu'une tornade a couché deux camions sur l'autoroute A72 au nord de Saint-Étienne. Il y a 53 000 foyers qui se réveillent sans électricité ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, les régions principalement touchées par ces orages. Plus de 140 000 impacts de foudre recensés hier partout en France. La canicule aussi qui est toujours en cours, vous savez, dans le sud-est avec 10 départements en alerte orange, eh bien elle est à l'origine d'une panne de courant à Marseille, c'était hier jusque dans la soirée, qui a provoqué les fermetures des tunnels passant sous le Vieux-Port d'après Enedis.
Il est 8h02 sur RMC, les recherches reprennent dans le Tarn.
Au lendemain de la découverte d'ossements dans un champ, à l'endroit où Cédric Jubilard, récemment passé aux aveux, dit avoir enterré le corps de son épouse après l'avoir tué il y a bientôt 6 ans. Pierre Bazin, vous êtes pour RMC en direct ce matin à Mayoc, c'est là que la découverte a été faite hier et là que les recherches reprennent ce matin.
Oui, ce matin, il y a encore près de 100 gendarmes qui sont mobilisés sur la zone. On a vu arriver notamment plusieurs fourgons, banaliser des équipes scientifiques, des médecins légistes déployés. 7 experts de l'IRCG, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale, sont toujours présents dans cette zone perdue au milieu de champs et de petits espaces boisés. C'est là que Cédric Jubilard a conduit les enquêteurs après son audition, au cours de laquelle il a réitéré des aveux et fourni des éléments d'explication sur le soir du drame. D'après ses avocats, on a également vu arriver entre hier et aujourd'hui une grue mobile située en plein milieu de la zone de recherche et on entend d'ici, même si nous sommes tenus à bonne distance, que les gendarmes s'activent au milieu de cet espace. Tout doit être ratissé au peigne fin pour être sûr de ne laisser aucun élément utile à l'enquête. L'enjeu à présent, il est double. Analyser dans un premier temps les ossements qui ont été conduits dans les laboratoires de Pontoise en Île-de-France dès hier pour savoir s'ils correspondent au corps de Delphine Jubilard. Et puis le second enjeu, si cela se confirme, c'est de retrouver le plus d'éléments possible pour reconstituer le squelette et essayer de déterminer quelles sont les causes de la mort. Il faut pour cela retrouver par exemple des traces de choc ou de fractures sur les os. Mais il est aussi possible que l'autopsie ne permettent pas d'apporter tous les éléments de réponse.
Autre affaire, on reparle là ce matin des conséquences de l'affaire Liana, puisqu'un deuxième rapport d'inspection pointe, et je cite ce rapport, les délais manifestement excessifs et un manque de moyens dans l'enquête sur de précédentes accusations visant le mis en cause Jérôme Barella. Amine Lafcha en direct ce matin pour RMC. On parle là de la jeune Rosa qui dit avoir été violée une cinquantaine de fois par Jérôme Barella.
Oui, dans ce rapport, l'inspection générale de la justice évoque un examen psychologique de la fillette mené par un psychologue non inscrit sur la liste des experts, puis un interrogatoire qui s'apparente, je cite, à un examen de la crédibilité de l'enfant proscrit depuis l'affaire dite d'Outreau. Le dossier fragilisé n'est alors pas prioritaire et renvoyé de parquet en parquet et n'est saisi par un service d'enquête qu'au bout de 10 longs mois avant d'être classé sans suite sur un simple compte-rendu téléphonique. Les enquêteurs de ce rapport font aussi mention d'un signalement fait par l'aide sociale à l'enfance faisant état d'agression de la part de Jérôme Barella lors d'une soirée pyjama. Un signalement jamais parvenu au magistrat. Le mail étant considéré comme un spam par le logiciel de messagerie du parquet.
Alors c'est dans la foulée de cette affaire Liana que les magistrats ont réexaminé plus de 70 000 procédures. Ils en avaient la consigne sans quoi ils ne partaient pas en vacances. Et ce matin, la procureure de Lyon fait un constat édifiant. Elle dit ceci, je la cite, on savait qu'on sous-traitait les violences sexuelles sur mineurs.
Au point qu'elle l'affirme dans un entretien accordé à l'AFP, on sait que l'affaire Liana peut se reproduire. Selon la magistrate, le nombre d'enquêteurs formés à recueillir la parole des enfants est insuffisant, de même que le nombre d'experts dans les domaines psychologiques, psychiatriques et numériques. Un sujet qu'elle a abordé avec le garde des Sceaux. La procureure de Lyon dénonce des capacités limitées et un sous-traitement des violences sur mineurs, regrettant qu'au moment des dessaisissements, les dossiers transmis entre les parquets partent dans les tuyaux.
Ameline Achin pour RMC en direct ce matin. Et dans ce contexte, le gouvernement dévoile ses premières orientations pour le budget de l'année prochaine, le budget 2027. Il va beaucoup en être question là dans les prochains mois. Alors tous les ministères devront se serrer la ceinture, sauf la justice, l'intérieur, les armées et la transition écologique qui verront leur budget augmenter. Puisqu'on parle de sécurité, tiens, sachez que des CRS arrivent ce matin en renfort à La Baule, en Loire-Atlantique. C'est le cas tous les ans pour faire face aux incivilités que dénonce le maire dès les beaux jours, dès que les beaux jours arrivent dans cette cité balnéaire. Une rixe, par exemple, qui avait fait la une des journaux lors du week-end de la Pentecôte à La Baule. Mais où la venue de ces CRS divise les habitants, c'est ce que nous dit notre correspondant Martin Lange.
Christophe est gérant d'un restaurant de plage face à la mer. Entre les services, le bar, la caisse, il doit aussi gérer le comportement de certains vacanciers.
Quelques incivilités, on fait un peu la police pour protéger un petit peu notre restaurant.
Il se réjouit donc de l'arrivée de cette compagnie de CRS.
Ah bah oui, c'est un renfort, puis c'est un peu leur métier, parce que nous on est surtout là pour servir les gens, on n'est pas trop là pour les réprimander. Quand ils se montrent, c'est vrai que ça calme un peu tout le monde.
Sur le remblai, face à la mer, la majorité des passants approuvent cette présence. Pierre vient en vacances à La Baule depuis plus de 40 ans.
Ils peuvent rassurer les gens, et puis le fait de les voir va faire que ces jeunes vont peut-être se comporter différemment.
D'autres émettent des réserves à l'image de Félix, pour qui des CRS n'ont rien à faire dans une station balnéaire.
Ça envenime plus la situation que ça l'apaise. Il y a déjà la police municipale qui sert de police de proximité. Je pense pas que déployer même des CRS ce soit vraiment nécessaire.
Mais pour le maire Franck Louvrier, ce renfort est vital.
Quand vous avez une ville qui est multipliée par 10 en nombre d'habitants, il est normal qu'on puisse avoir des forces en plus, sinon c'est pas possible. Les CRS, c'est pas que de l'ordre public. Les CRS, c'est aussi de la présence policière au quotidien.
Le maire espère également pouvoir bientôt investir dans des drones pour surveiller ces 8 km de plage.
Tiens, à propos des vacances, l'autoroute A6 est à nouveau ouverte à la circulation en Seine-et-Marne, dans le secteur de Fontainebleau. Elle était fermée depuis dimanche, vous savez, à cause de l'incendie dans la forêt. D'ailleurs, les opérations de noyage se poursuivent, nous disent les pompiers ce matin. Réouverture qui tombe pile pour un nouveau week-end de départ en vacances. La journée classée orange au niveau national et rouge dans la moitié est.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les vacances, l'été, normalement on peut veiller, on peut se coucher plus tard, mais est-ce que vous aurez la foi de regarder la petite finale de la Coupe du Monde demain soir à 23h entre la France et l'Angleterre? Ben c'est pas sûr du tout si on en croit ces Parisiens, ces touristes et ces cafetiers ici à Paris avec David Alias.
Si le mondial n'est pas encore totalement terminé pour les Bleus, il l'est pour certains supporters qui n'allumeront pas leur télévision demain soir.
Trop tard, c'est à 23h. Bon, en plus, là, je suis en vacances sur Paris, on va pas regarder le match.
J'espère qu'ils vont faire un brustasse, tout, on peut s'aider contre les Anglais. Et je pense que je vais moins suivre ce dernier match.
Pour d'autres, comme Roman et son frère Aubry, ce match sera l'occasion d'encourager une dernière fois les Bleus et leurs sélectionneurs.
Pour faire jouer les mecs qui n'ont pas joué, qui étaient là sur tout le mondial, qui ont participé à l'aventure.
Une des seules raisons pour lesquelles je vais suivre le match, c'est parce que c'est la dernière de Deschamps. Pour tout ce qu'il a fait pour notre sélection, ça serait beau que l'équipe gagne ce match pour lui rendre hommage.
Même si ce dernier aurait préféré ne pas affronter l'Angleterre.
Ça aurait été France-Argentine à 23h le samedi soir, même la petite finale, même la troisième place. Je pense que j'aurais été dans ma télé sacrément concentré et comme une grosse partie de la France, je pense.
Serveuse, Julia s'attend tout de même à accueillir de nombreux supporters des Bleus demain soir pour suivre la rencontre.
Oui, je pense qu'il y aura du monde parce que ça reste la France qui joue. C'est la dernière victoire qu'on espère avoir.
Comme ici, d'autres établissements diffuseront la petite finale avec l'espoir de voir Kylian Mbappé et sa bande finir sur une bonne note.
Les Bleus qui sont arrivés à Miami durant la nuit, ils ont définitivement quitté leur QG de Boston. Ils devaient avoir quartier libre dans la soirée, mais ça a été annulé. Didier Deschamps veut que tout le monde reste concentré pour la petite finale demain soir. On sait déjà que le défenseur William Saliba ne jouera pas demain et pour cause. Il souffre d'une fracture au dos depuis le début de la Coupe du Monde. C'est toi, RMC, qui vous a révélé cette info dès hier. Et tiens, puisqu'on parle de pépins physiques, sachez qu'il y a deux coureurs qui abandonnent là, le Tour de France, victimes de la très grosse chute hier à l'arrivée dans le sprint final à Chalon-sur-Saône. Ce sera la plus longue étape du Tour de France aujourd'hui. 206 km entre Dole et Belfort. On arrive dans les Vosges. Ça y est, la route s'élève à nouveau avec le ballon d'Alsace au programme à 30 km aujourd'hui de l'arrivée.
Il est 8h10. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC et RMC Story. Et c'est l'heure de parler économie et football.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Pierre Rondeau, rebonjour Pierre. Bonjour, la Coupe du Monde se termine donc dimanche avec la finale Espagne-Argentine. Et on peut déjà le dire, c'est une Coupe du Monde qui va battre tous les records.
Oui, la Coupe du Monde va permettre à la FIFA de dégager un chiffre d'affaires sur la période 2023-2026 de 11 milliards de dollars. Pour bien se rendre compte de l'exploit, la FIFA avait enregistré un chiffre d'affaires de 6 milliards sur la période précédente avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette augmentation spectaculaire de 5 milliards s'explique surtout par la billetterie, avec des recettes en augmentation de 2,59 milliards de dollars et les droits TV en augmentation de 890 millions de dollars. Deux choses ici pour expliquer cette inflation. Le mondial à 48 nations, donc qui dit plus d'équipes, dit plus de matchs, donc plus de diffusion et plus de droits TV. Et de même, qui dit plus de matchs, dit plus de billets vendus, 7,1 millions au total, dans des stades américains plus grands. Et ces places ont été vendues plus chères, avec le fameux système de la tarification dynamique. Plus la demande est forte, plus le prix grimpe. Et comme il y a eu 500 millions, un demi-milliard de demandes d'achat sur toute la compétition, les places se sont échangées entre 200 et 5000 dollars en moyenne et même jusqu'à 32 000 dollars pour la finale.
Et tout cet argent, il va servir à quoi ?
Alors officiellement, la FIFA est une association de droit suisse, donc n'a pas de but lucratif et ne doit pas rémunérer des actionnaires. L'argent qu'elle gagne doit obligatoirement être réinvesti, réinjecté, dépensé, et une très grosse partie est consacrée au développement du football à l'international et au financement des prochaines compétitions, des prochaines Coupes du Monde. Ensuite, il y a 748 millions d'euros qui seront redistribués aux équipes participantes à la compétition. La simple présence en Coupe du Monde, c'est 7,6 millions d'euros garantis. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la compétition, le chèque augmente. Éliminée en demi-finale, l'équipe de France aura donc la certitude de toucher un chèque de 23 millions d'euros. Et si elle venait à battre l'Angleterre demain, elle pourrait toucher le pactole de 24,6 millions d'euros en terminant troisième, ce qu'on espère tous.
Notre point quotidien sur les chiffres du carburant,
alors,
l'énergie.
Le sans-plomb 95, il baisse, mais très, enfin, il baisse. Il y en a 1,96 et quelques. On est aujourd'hui 1,96, donc il y a une quasi-stagnation. Le gazole, 2,03€, pareil. Il y en a aussi une quasi-stagnation. Le baril de pétrole, il augmente, mais très légèrement. 85 dollars, 85,06 aujourd'hui. Et le gaz, pareil, stagnation. Ça n'augmente pas, 55,30€.
Merci Pierre Rondeau. Pour l'économie, il est 8h13 sur RMC. Et dans un instant, Arnaud Demanche va nous faire rire avec l'actualité.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15 sur RMC, à suivre le face-à-face. Marie Chantrey reçoit Dominique Rizet pour revenir sur les rebondissements dans l'affaire Jubilard. Les ossements retrouvés peuvent-ils parler et nous apporter des informations sur les causes de la mort de Delphine Jubilard? Ce sera à 8h30. D'abord, beaucoup de réactions sur le WhatsApp RMC, Victor, notamment sur notre débat du jour qui a animé Cécile Duflo et Charles Consigny tout à l'heure sur ce projet de loi agricole.
Et on a d'abord Stéphane qui nous dit les pollinisateurs et l'eau, c'est la vie. Et là, on a décidé d'abord de réintroduire des pesticides et deux, de privatiser l'eau. Les députés et les sénateurs sont irresponsables. On a aussi Thierry qui nous dit moi je stocke de l'eau chez moi. On en récupère aussi pour les réseaux collectifs. Alors pour moi, pour les agriculteurs, il n'y a pas de débat. Ils doivent pouvoir eux aussi stocker de l'eau. Et puis Corinne nous dit c'est un recul immense pour notre pays, cette réintroduction de deux pesticides interdits en France mais autorisés chez nos voisins européens, au moment même où les cancers digestifs sont en progression. Corinne nous dit que c'est un très, très mauvais signal.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est en vacances, mais on vous a gardé le meilleur d'Arnaud de Manche.
Les amis, oui. J'ai une super nouvelle pour vous. Attention, vous allez être contents. Car les salles de sport Basic Fit vont ouvrir la nuit. Vous allez pouvoir faire votre muscu avant de venir à la matinale.
C'est Apolline, tellement à l'américaine.
1h du mat, ça
bien
va
sûr,
être génial.
Bien sûr.
Apo, elle va faire son développé couché, des fentes bulgares avec des kettlebells, boxer, des punching balls en disant « Alors Villepin, tu veux pas répondre ?» Ils viennent d'où tes sous ? Et Apo, Elle verra aussi débarquer Alain Bauer dans le Basic Fit, qui sera en micro-short fluo. Oh, quelle coïncidence, Apolline. Vous ici, vous savez que je viens de sortir mon nouveau livre. Ça s'appelle « C'est la loose dans le détroit d'Ormuz ». Et c'est l'histoire d'un bel aventurier moustache. Je sais, Alain, je sais. Appelez ma programmatrice. Elle a bloqué mon numéro. Et toute l'équipe de BFM Business serait là aussi. Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon.
T'as vu Edwige ? Je suis sur cette machine depuis une heure. Je tiens bien le coup. Hein.
Oh, Choubinou, comme tu es fort ! C'est la machine à confiserie.
Ah oui.
Rejoins-moi sous la douche. On va voir combien de kilos tu peux soulever au développé couché.
Oh, non.
À propos de salle de sport, avez-vous vu cette polémique géniale après les déclarations d'une journaliste du Figaro, Anne de Guigné, invitée du club Figaro Idée? Elle a déclaré ceci.
Les mêmes salariés s'infligent des efforts mais colossaux. Et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Une nostalgie industrielle.
J'avoue que j'avais vu. Je me dis, en fait, c'est une nostalgie
de l'usine. C'est une nostalgie de l'usine. C'est pour ça qu'on va à la salle de sport.
Ça cultive d'ailleurs cette nostalgie.
Oui, on est nostalgique de l'usine. Et c'est vrai que c'est puissant cette nostalgie. Tous ces gens sur les rameurs. Hein, cette nostalgie des galères romaines. Le bon vieux temps.
Voilà.
L'envie de perdre du poids. Mais non, mais on était mieux du temps des famines.
Oui.
On avait un rat crevé à Noël, mais on était heureux. Il n'y avait pas de problème de surpoids.
Hier, Arnaud, le MEDEF a donc reçu à déjeuner le président du RN, Jordan Bardella, pour échanger sur des sujets économiques.
Oui, alors le patron du MEDEF a accueilli Jordan. Bonjour, monsieur Bardella. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du monde des affaires ? Des affaires au RN, on en a plein. On a l'affaire des parlementaires européens, l'affaire des kits de campagne. Non, mais des affaires du business. Vous faites un peu du business ? Oui. Avec la Russie, par exemple.
Voilà.
Non. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les TPE ? Eh bien, les TPE, grand 2, les TPE, des fois, on met sa carte et ça marche pas. Donc, mais c'est bien embêtant. Non, mais c'est pas ça, les TPE. Ah. Moi, ma copine, c'est une princesse.
Ah oui.
On n'est pas sorti du sable.
C'est pas gagné.
Pas du tout.
Et puis, Arnaud, c'est toujours la crise dans le détroit d'Ormuz.
Ah oui. Aïe, aïe, aïe.
Zut.
Ah, pop. Quelle histoire. Eh ouais. Ouais. Bah, il va falloir tenir jusqu'à juin avec le sujet. Hein. Alors, aux dernières nouvelles. Les dernières nouvelles ?
Oui.
Dernières nouvelles.
Allons-y, les dernières nouvelles.
A menacé de détruire les ponts en Iran si les pourparlers de paix échouent. J'espère que Macron va pas s'inspirer de lui, qu'il va pas faire. Mais voilà ! Ça, c'est bien. Vous aussi, les Gaulois, faudrait vous faire sauter vos ponts, là. Votre connerie de 1er mai, allez, ça dégage. L'année prochaine, c'est dehors. Et le pont du 8 mai, et hop, à l'usine. Ça nous rappellera la salle de sport. Et le pont de l'Ascension. Vous en avez combien, des trucs? Regarde, au moins, le pont de Ligonnès, lui, il a disparu, celui-là.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC en podcast. Allez, on va retourner au 32-16, au standard RMC. C'est Fabien qui est avec nous. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour.
Bienvenue Fabien, viticulteur dans l'Aude, c'est ça ?
C'est ça.
Chez vous, le sujet de l'eau, on parlait tout à l'heure du sujet du stockage de l'eau. Évidemment, j'imagine que c'est un sujet extrêmement sensible pour vous en ce moment, l'eau.
C'est plus que sensible, c'est primordial. Quand on voit les incendies, par exemple, qu'on a eu l'année dernière, de nouveau cette année, dans les Pyrénées-Orientales, à cause, en grande partie, de la déprise agricole, car tout s'enfriche, parce que sans eau, maintenant, il n'y a plus de culture possible chez nous.
Ça devient catastrophique. Il y a des stockages d'eau chez vous ?
Alors, il y a quelques stockages d'eau. Alors, on a la chance d'avoir des stockages en montagne qui permettent du soutien d'étiage, où on a des relargages de mètres cubes l'été. Et on a un lac assez grand d'une quarantaine d'hectares qui sert de base de loisirs et qui sert aussi d'adduction d'eau brute. Et on a le canal du Midi aussi. Mais il faut se dire, alors c'est une portion congrue des terres agricoles qui sont irriguées dans notre coin. Certaines personnes ont la chance d'irriguer, d'autres n'ont pas cette chance-là. Et avec les années que l'on vient de passer, là, on est sur 4 années de sinistres climatiques sur 5 ans. Donc il y a la grande majorité des exploitations qui sont à genoux, quoi.
Alors j'imagine que vous êtes évidemment, vous soutenez cette loi qui va alléger un certain nombre de réglementations pour permettre le stockage de l'eau. Ce projet de loi agricole très critiqué. Vous entendez comment vous réagissez quand vous entendez ceux qui estiment que c'est une forme de privatisation de la ressource en eau, même, voire d'accaparement des ressources en eau par les agriculteurs?
Mais en fait, là, on est bien dans l'état d'esprit du Français qui veut toujours régenter ce qui ne le concerne pas et ce qui ne le touche pas surtout. Donc, un accaparement de l'eau, c'est faux, c'est totalement faux, car toutes ces organisations, toutes ces stockages sont collectifs. Chez nous, par exemple, il y a 80% du réseau d'eau qui est géré par BRL, donc qui est chapeauté par la région Occitanie. Donc on est très très loin de l'accaparement de l'eau. On est très loin de l'accaparement de l'eau. Nous, la profession, on est à fond pour les démarches les plus collectives possibles, pour que la majorité d'exploitants ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Et puis en plus réaliser des économies d'échelle en montant des projets qui sont conséquents.
Donc vous dites, nous on prend le sujet parce qu'il est, c'est un sujet d'urgence, mais on est responsable. Il y a des messages sur le WhatsApp RMC Victor sur ce sujet avec d'autres agriculteurs.
Ah oui, tous les agriculteurs ne sont pas d'accord. On a le message de David qui lui est maraîcher bio dans les Pyrénées-Atlantiques et qui nous dit la maison brûle et nos responsables syndicaux et politique continue de regarder ailleurs, notamment vers le profit particulier seulement de certains et à court terme. On ne pense pas à long terme, nous dit David. Cette loi n'est pas une erreur, elle est un scandale, conclut-il dans son message.
La question qu'on peut se poser, Fabien, et j'imagine que c'est aussi vos interrogations et vos doutes, et c'est votre activité, on comprend l'importance, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à cultiver de la vigne, par exemple, dans l'Aude? Les questions à l'avenir?
Sur l'année, on a largement assez d'eau, si on la stocke, pour pouvoir avoir l'agriculture la plus responsable du monde. Mmh. Avec un climat qui est très sec, une fréquence de traitement qui est des plus faibles de France, on a un climat qui est fait pour tout. On a pris 800 mm cet hiver de pluie, on avait de l'eau partout. Et là, maintenant, on a les terres les plus sèches depuis 10 ans. Mmh.
Merci beaucoup, Fabien, pour votre témoignage ce matin. Merci d'avoir composé le 32-16 depuis l'Aude. Dans un instant, sur RMC, le face-à-face, Marie Chantrey reçoit Dominique Crisé pour revenir sur les derniers rebondissements dans l'affaire Jubilard.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres avec Clément Gouitz.
53 000 foyers privés d'électricité ce matin, conséquence des violents orages de ces dernières heures en Auvergne, Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Des intempéries qui provoquent également des perturbations sur les rails entre Toulouse et Paris. Deux intercités partis hier soir ne sont toujours pas arrivés ce matin en gare d'Austerlitz. Un arbre est tombé sur les voies dans le Lot. De nombreux retards ce matin sont à prévoir. La SNCF espère un retour à la normale à partir de 9h. Le mystère Delphine Jubilard touche-t-il enfin à sa fin? Son mari, Cédric Jubilard, a guidé hier les enquêteurs sur une nouvelle piste. Plus de 5 ans après sa disparition, des ossements retrouvés à Mayoque dans le Tarn restent à les identifier. Les fouilles vont durer plusieurs jours. Deux ouvriers d'une société de travaux ont été mis en examen hier pour le déclenchement involontaire du premier incendie de la forêt de Fontainebleau. Une étincelle d'une disqueuse aurait mis le feu à la végétation près de l'Assis. L'Assis, justement, a pu rouvrir hier soir. Et puis c'est à vivre dès 14h sur RMC, la 13e étape aujourd'hui entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition, 205 km. La météo, un risque d'orage, surtout cet après-midi sur le nord-est, l'Île-de-France, le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, alternance entre nuages et belles éclaircies, grand soleil sur le pourtour méditerranéen. Il fera cet après-midi de 22 à 36 degrés, 22 à Dunkerque, 28 à Nantes-Orléans et 36 à Nîmes.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey reçoit Dominique Crisé pour revenir sur les derniers rebondissements de l'affaire Jubilard.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face-à-face. Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Dominique Crisé.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Je le disais, on ne vous présente plus. Vous êtes consultant police-justice BFM TV et la voix aussi et le visage de ces grands récits d'affaires criminelles qui ont traversé notre époque. Et au nom de ces grandes affaires criminelles, oui. Celle de Cédric Jumillar en est une. Une affaire hors norme, on va y revenir en détail, qui après plus donc de 5 années de dénégation, de non-dit devant la justice, oui. Eh bien les aveux, et peut-être la fin d'une énigme, jamais il n'avait collaboré avec la police. Oui. Hier, il les a amenés sur les lieux où il a enterré son absolument. Épouse. On va y revenir là aussi longuement. On pense aussi quand même à la famille de Delphine Jubilard, ses enfants. On verra d'ailleurs ensemble ce que ça va changer mm-hmm. aussi pour eux. Mais d'abord, Dominique, depuis 7h ce matin, les fouilles ont repris oui. à une dizaine de kilomètres de là où habitaient Delphine et Cédric Jubilard, oui. dans un champ. Des fouilles qui ont repris, selon vous, est-ce qu'elles peuvent durer encore longtemps, ces fouilles?
Oui, ça peut durer longtemps. Le site est protégé. Hein. Toute cette nuit, on avait posé un barnum au-dessus de l'endroit où étaient retrouvées déjà des parties du corps de Delphine Jubilard hier. Hein. 2 fémurs, c'est ce qu'on avait, et quelques ossements. Oui, ça peut durer 2-3 jours. À partir du moment où le site est protégé, les enquêteurs sont sur place, les techniciens d'identification criminelle, les anthropologues, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, les gendarmes aussi de la section de recherche de Toulouse qui sont chargés de l'enquête, donc ils vont tout noter, tout observer.
C'est là une scène de crime gelée, Dominique, c'est ça qu'il faut comprendre, ce champ.
C'est une scène de découverte du corps.
Découverte
la scène de crime,
corps.
Elle est ailleurs.
D'accord.
Mais c'est une scène de découverte du corps, oui, elle est gelée, et puis les gendarmes vont filmer en 3 dimensions, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on découvre des ossements, vous savez, c'est comme les archéologues qu'on voyait en Égypte, avec des pinceaux. On nettoie, on enlève la poussière, la terre, et on prélève un morceau du squelette qu'on va retrouver. On le conserve et ensuite, plus tard, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, à Pontoise, on va essayer de reconstituer ce corps pour essayer de le faire parler. Et en même temps, on filme en 3 dimensions. C'est-à-dire que plus tard, on pourra revenir sur la scène de crime dans une pièce où tout aura été filmé.
Et ça les servira aux enquêteurs pour interpréter et
absolument.
Tenter d'avancer dans l'enquête.
À la justice, on peut même projeter des éléments comme ça devant la cour d'assises.
Dominique, vous le précisiez, 2 fémurs ont pour le moment oui. été retrouvés. Des informations au fil des heures nous parviennent. Mm-hmm. On va prendre du conditionnel et être précis et oui. prudent. Selon la Dépêche et nos confrères de la Dépêche du Midi...
Frédéric Abélard.
Absolument. C'est un champ qui est aujourd'hui ausculté de
oui,
très près.
Absolument.
Et les informations qu'ils ont à leur disposition, c'est que c'est un terreau,
oui.
un terreau de près de 3 mètres, mm-hmm. qui a été visité, j'ai envie de dire, oui. par Cédric Jubilard à l'époque,
absolument.
De 3 mètres, qui ensuite, ce terreau, a été épandé dans un champ. Qu'est-ce oui. que cela dit des futures fouilles, justement? Parce qu'épandé, il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est de la terre qui a été ensuite déversée sur le champ pour l'aider oui. à être cultivée.
Alors moi, Marie, en plus d'être un journaliste police-justice, je suis un garçon de la campagne. Toute ma famille a des fermes en Saône-et-Loire. Je connais bien, j'ai grandi dans ces fermes, j'y suis allé. Donc, c'est un champ. On a posé hier la question avec Alice Darfeuille et Pauline Revenin, on a posé la question au maire de Mayoc, qui s'appelle Jean-Jacques Escout, et on lui a dit, est-ce que ce terrain était entretenu ? C'est important. Et il nous a répondu, oui. Entretenu, ça veut dire que si on y plante de l'orge, on y plante l'année suivante du blé, on y plante du colza, eh bien chaque année, il faut le labourer. Avant de planter, il faut labourer. Avant de moissonner, il faut labourer. Ça veut dire que s'il est entretenu, on va poser la question au propriétaire du terrain, est-ce que vous avez labouré votre terrain ? Dans quel sens labourez-vous ? Parce que ça veut dire qu'il peut avoir déplacé le corps. Et puis ensuite, cette information que nous donne Frédéric Abélard, qui connaît bien le dossier, qui est, visiblement, on l'a tous compris, proche des avocats, mais chacun de notre tour, journaliste, on est proche d'avocats dans des dossiers judiciaires. S'il donne ces informations, c'est quelqu'un lui a donné et c'est quelqu'un qui était sur place. Mmh. Donc, le corps serait dans un monticule de terreau. Donc, le terreau, c'est pour de l'épandage. On l'attrape avec une pelle mmh. agricole. On le met dans une machine qui sert à épandre. Derrière, il y a une vis sans fin. Le tracteur traîne cette machine et envoie de l'épandage dans le champ.
Mais à vous écouter, Dominique, ça paraît presque du ressort du miracle d'avoir retrouvé dès hier, sur indication de Cédric Jubilard, de ouais. premiers ossements. Parce que ça veut dire que possiblement, eh bien, ces ossements sont éparpillés
bien
partout
sûr.
Sur un champ. Possiblement sur des mètres ou des kilomètres carrés.
Alors, c'est possible. Oui. Et je reviens à votre première question. Est-ce que ça va encore durer longtemps? Oui, ça va durer longtemps. Parce qu'il va falloir collecter dans un espace bien plus large qu'un simple espace où on déposerait un corps. Pour avoir une idée, on voit une tombe avec un corps. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Là, les éléments du corps qu'on pourra retrouver, ils sont pas à un endroit précis, rectangulaire. Ils sont dans un champ. et possiblement ils ont été éparpillé par cette machine. Pardon pour ce détail, mais on parle criminologie.
Ouais, et c'est très important d'avoir votre expertise là-dessus. Qu'est-ce que l'on cherche? Que cherchent là aujourd'hui, ce matin, les enquêteurs? Ces deux fainéants ont été retrouvés. Ouais. Depuis 7 heures, les fouilles ont repris, on le redit. Comment ils procèdent?
Alors les enquêteurs, ils savent déjà si ces fémurs sont ceux de Delphine Jubilard. Parce que dans des fémurs, même aussi longtemps après, le fémur c'est l'os le plus long du corps. Et on y retrouve de l'ADN, même 5 ou 6 ans après. Donc ils savent déjà si ces fémurs sont bien ceux de Delphine Jubilard. Et il y a vraisemblablement très peu de doutes que ce soit quelqu'un d'autre que Delphine.
Que laissait d'ailleurs sous-entendre hier l'avocat de Cédric Jubilard.
Hein. Absolument. Donc maintenant, il faudrait retrouver d'autres éléments. Le bassin, des os importants. On ne retrouvera pas les os des mains, des pieds, évidemment. La tête, le crâne.
Peut-être parce un que crâne, en effet.
On peut découvrir sur un crâne une fracture ou une trace de coup qui mettra à mal la version donnée par Cédric Jubilard. Je ne connais pas exactement, mais en tout cas, ses avocats disent il n'a pas voulu... il n'a pas voulu donner la mort à son épouse, évidemment.
Et ça, on reviendra sur la stratégie, justement, de sa défense. Mais juste, vous disiez, je vous cite, les ossements parlent. On
bien
peut
sûr,
faire parler les os.
Évidemment.
C'est ça aussi à quoi vont s'attacher les prochaines analyses. Vous parlez de l'IRCGN à Pontoise. Mm-hmm. Là, encore une fois, certaines analyses peuvent aller vite pour déterminer si on est bien en présence du corps de Delphine Jubilard. Mm. Mais ensuite, on pourra déterminer si elle a été frappée, si elle a été étranglée. Tout ça, tous ces ossements vont aider à cela?
Bien sûr. Alors, lui, visiblement, dit qu'il l'aurait étouffée. C'est ce qu'il avait, il avait raconté plusieurs fois à Séverine, son ex-copine. Ah bon. Et quelqu'un qui est étouffé, c'est pas quelqu'un qui reçoit un coup de couteau ou une balle. Une balle ou un coup de couteau peut laisser des traces sur les os ou pas. C'est-à-dire, si une balle passe entre deux côtes et ressort entre deux côtes, elle va perforer des organes vitaux. La personne va mourir, mais il y aura pas de traces de balle quand on retrouvera son squelette, parce que là on ne retrouve qu'un squelette. Il n'y a plus de partie molle. Les légistes parlent comme ça. Partie molle, ce sont les chairs, les organes. Donc, si la balle n'a pas touché le corps, il n'y a pas de traces. Le couteau peut avoir laissé, un couteau peut avoir laissé des traces de ripage sur une côte ou d'impact sur le bassin. Une pointe de couteau. Là, on n'est pas visiblement dans cet aspect-là, dans cette configuration. On est plus dans une configuration d'étouffement. Mmh. Étouffement, donc ça, on l'a répété 10 fois, mais on va le dire très rapidement. Le larynx se casse. Ce petit os qui est ici, l'osioïde, qui est le seul os qui n'est pas rattaché au squelette, se casse. C'est un petit morceau de cartilage. Donc là, on le retrouvera jamais, parce qu'on est 5 ans et demi après. On pourra pas le savoir comme ça si elle a été étouffée. On pourra le savoir peut-être par ses dents, si on avait la chance de retrouver sa mâchoire et ses dents, parce que les dents ont une coloration quand une personne est étouffée, parfois.
Parfois. Encore une fois, il faut le rappeler aussi, il a été jugé, Cédric Jubilard. Il y a un an, reconnu coupable, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La justice, et en première instance, la Cour pénale, a décrit notamment le domicile des Jubilard comme une scène de crime. Mais, c'est important de le rappeler, sur les examens qui ont été faits de ses vêtements, de sa voiture, aucune trace de sang à l'époque retrouvée, aucune trace non plus de terre.
Bravo.
Quand on comprend ce qui possiblement s'est passé, ça veut dire quoi? Qu'il a sans doute pris beaucoup de précautions si aucune terre n'a été retrouvée sur lui à l'époque?
Alors, ça veut dire, s'il n'y a pas de trace dans la voiture, que Delphine Jubilard n'a pas été tuée avec un couteau ou une arme à feu parce qu'elle aurait saigné. Ça veut dire qu'elle a pu être étouffée. C'est une hypothèse. Ensuite, emporté dans un linceul, dans un drap, c'est ce qu'avait Jonathan Daval quand il a tué sa femme Alexei, il l'a transporté dans un drap housse qu'il avait pris dans l'armoire de la maison, pas très malin parce que le drap manquait et on l'a retrouvé sur la scène où était le corps d'Alexei Daval. Donc Cédric Jubilard peut avoir emporté le corps dans la voiture sans qu'elle saigne, sans qu'elle laisse des traces dans cette voiture, et puis l'avoir déposé là où il dit l'avoir déposé, oui c'est vrai puisque c'est là qu'on la retrouve. Et ensuite être rentré sans avoir laissé dans la voiture des traces suspectes. Et puis je vous rappelle quand même que c'est le mari. Donc son ADN, on le trouve forcément dans la voiture de sa femme. C'est une voiture qu'il utilise de temps en temps. Donc la voiture n'a pas parlé, mais c'est quelque chose qui a été tenté. Hein. Les gendarmes ont démonté cette voiture comme ils avaient démonté la voiture de Nordal Lelandais. Souvenez-vous, la trace de sang microscopique.
On qui a avait rien permis d'arriver en effet à démontrer sa culpabilité.
Absolument. C'est qu'il a eu de la chance. Cédric Jubilard a eu de la chance.
De la chance, mais désormais, une forme de changement de stratégie.
Ouais.
J'aimerais qu'on remonte le fil. Des dénégations devant les autorités, devant la police, devant la cour criminelle, encore une fois. des aveux faits à une compagne rencontrée en prison, à des co-détenus, Séverine en effet, et puis un changement d'avocat en début d'année. Et cette lettre envoyée il y a 10 jours maintenant, et ces paroles prononcées devant les enquêteurs, devant la magistrate, qui l'amène donc sur ce champ pour ses aveux, en effet, total changement de stratégie. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Mais d'abord, est-ce que la suite aussi, ça va être le fait que Cédric Jubilard soit amené pour d'éventuelles reconstitutions, pour que l'enquête, encore une fois, avance? Ça aussi, c'est la suite, Dominique Rizet?
Moi, j'ai un scénario en tête. Bien sûr, il va y avoir une reconstitution. On va lui demander, on va aller sur la scène de crime. La scène de crime, c'est la maison. La maison dans laquelle on a retrouvé ses lunettes, cette branche de lunettes qui appartenait à Delphine Jubilard, cassée. Dont un expert dira, pour casser une lunette aussi solide, il faut vraiment une pression, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est assis sur les lunettes. Ça, c'est la scène de crime. Donc, on ira sur place. On va demander à Cédric Jubilard, qui sera là avec ses avocats, Pierre et Guy de Buisson. On va lui dire, est-ce que vous acceptez de participer à la reconstitution? Oui, non. Si vous participez, refaites les gestes. Soit il y aura un mannequin, soit il y aura une femme gendarme de la taille de Delphine Jubilard. On lui dira, montrez-nous comment vous l'avez étranglée. Est-ce qu'il refera ce fameux geste qu'il avait raconté à Séverine, de passer son bras derrière
le clé de bras? Juste, Dominique, est-ce que de votre point de vue, on peut pas lire dans l'avenir ce qui va se passer, mais au vu du tournant que Cédric Jubilard et sa défense a opéré, ça signe le fait d'une plus grande collaboration et donc d'une participation à une reconstitution.
Marie, il va participer, bien sûr qu'il va participer à la reconstitution, il est sur le chemin des aveux et de la vérité. Donc oui, il va participer à la reconstitution, il va refaire les gestes, il va raconter les gestes qu'il a fait ce soir-là, qu'il a posé ce soir-là, les actes qu'il a posés, mais ça sera sa seule version. Et sa version, on imagine comment il va jouer la reconstitution. Premier temps de la reconstitution, dans la maison. Deuxième temps de la reconstitution, et là ça va être intéressant, la voiture, vous êtes allé sur place, montrez-nous, vous démarrez la voiture, vous descendez la rue sans le moteur, vous démarrez avec le moteur un peu plus bas, vous roulez sans les phares, c'est une vieille voiture. Les voitures d'aujourd'hui, quand on met le contact, tout s'allume.
En plein confinement, on le précise aussi. On est en décembre 2020.
Absolument. Juste,
ce sont des
fait 10 km sans phare. Oui. Et dit, j'arrive en pleine nuit et j'arrive dans un endroit et je vais enterrer le corps. Et là, ça va être intéressant. Parce que Marie, imaginez que la reconstitution, le procès n'aura pas lieu le 21 septembre.
J'y viens, justement. Parce qu'en effet, il y a le procès en appel. Le 21 septembre. Mais que joue et pourquoi aujourd'hui? En langage policier, on dit quoi? Il passe à table. Pourquoi il va si loin dans ses aveux? C'est parce qu'il y a ce procès en appel aussi le 21 septembre. Ses avocats nous disent hier soir, ça serait grotesque que cette date soit maintenue. De votre point de vue aussi, c'est impossible, ces délais sont intenables au vu des actes d'enquête qui vont devoir être menés.
Oui, il y a plein de choses à faire. L'autopsie, l'analyse de l'autopsie, la toxicologie, est-ce qu'elle était sous médicaments? Ensuite, il va falloir organiser la reconstitution. Au mois d'août, la justice est en vacances. Comme tout le monde, on est tous en vacances et c'est normal. Et puis ensuite, il va falloir peut-être refaire des expertises psychiatriques, psychologiques.
Et la temporalité a son importance parce que vous le soulignez, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, il fait froid et un terreau, en tout cas de la terre, n'a peut-être pas la même apparente et aspect qu'au mois de juin. Ça aussi, ça a son importance pour les enquêteurs et la défense, j'imagine.
Ce que peuvent faire les magistrats, c'est dire, quand on fait une reconstitution, il faut que ce soit à peu près à la même époque, dans les mêmes conditions météo, à la même heure du jour ou de la nuit, etc. Et donc, là, imaginez, pas de procès le 21 septembre, et les juges disent, la reconstitution, on va la faire, la deuxième partie de la reconstitution. Vous prenez votre voiture, vous emmenez le corps sur place, vous dites que vous avez gratté la terre, on va faire ça le 15 décembre. On va regarder la météo du 15 décembre, la température, on va voir si c'est la même température qu'en 2020, mais on le sait déjà, en 2020, on sait quelle était la température. Imaginez qu'il fasse 4 degrés, et on va lui dire, Monsieur Jubilard, vous nous dites, c'est Frédéric Abélard de La Dépêche qui le dit ce matin, vous avez gratté la terre, allez-y gratter la terre le 15 décembre, et il y avait une cavité, vous avez mis le corps de votre femme dedans, remettez la terre par-dessus. Je suis pas sûr que le 15 décembre, dans une terre comme ça, ça va être très facile de refaire les mêmes gestes.
Je disais, qu'est-ce qu'il se joue et pourquoi cette nouvelle stratégie de Cédric Jubilard, de sa défense également, et des mots très durs de sa défense. Hier, Maître de Buisson disait, les enquêteurs sont passés à côté de choses énormes dans les 48 heures qui ont suivi la disparition de Delphine. Encore une fois, on est à une quinzaine de kilomètres de leur domicile. Six ans plus tard, cette zone n'a pas été fouillée par les gendarmes. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça se comprend? Encore une fois, vous connaissez ces affaires par cœur. Ou est-ce que vous y voyez une forme de défaillance, là aussi?
Non. Ça s'explique. C'est quand même très très loin, 10-15 kilomètres. Et puis c'est un rayon, hein. On leur dit pas, à 10 kilomètres dans cette direction-là, vous avez le corps de Delphine Jubilard. C'est dans un rayon, donc ils ont cherché. Mais évidemment, ce qui est classique a été fait, les points d'eau, les cimetières, même j'ai regardé dans les cimetières, les cavités, etc. Mais hier, quelqu'un disait, je sais plus, quelqu'un disait, tiens, je prends cet objet-là et je vais le cacher à 10 kilomètres. Je dis à 10 kilomètres d'ici, essayez de le retrouver. Bon, donc c'est très compliqué. C'est pas que le boulot n'a pas été fait. Moi, je pense que la botte secrète des avocats, quand ils disent, voilà, il y a quelque chose, le travail n'a pas été fait dans les 48 heures, c'est le téléphone portable de Delphine Jubilard qui n'a jamais été retrouvé. Donc,
et là aussi, les enquêteurs peuvent aussi.
Il a dit, Cédric Jubilard a dit forcément aux magistrats et à ses avocats où était ce téléphone portable, ce qu'il en avait fait, il est obligé de le dire. Il avoue, il doit tout avouer. Donc, il doit dire où est ce téléphone. Et j'imagine que là, quand on va savoir où est le téléphone, ça va peut-être poser un problème à l'enquête de la gendarmerie.
Dominique Rizet, je le disais en introduction de cette interview, on pense à la famille, aux enfants.
Bien sûr.
Louis, 11 ans aujourd'hui, le petit garçon, a vraisemblablement aussi, via ses avocats, demandé une dernière fois à ce que son père parle et dise où était sa maman. Peut-être que ça a joué aussi sur la psychologie de Cédric Jubilard. Qu'est-ce que ça change aussi? Une fois que ces analyses auront été faites, les avocats de la famille disent on va pouvoir enfin, sans enlever le drame et l'horreur de ce qui s'est passé, avoir une sépulture. C'est ça aussi qui va pouvoir avoir lieu et se dérouler dans les prochains mois.
Ça, c'est le chapitre manquant de cette affaire. Cette affaire, c'est une affaire dans le désordre, une affaire criminelle dans le désordre. Le chapitre 1, elle disparaît. Le chapitre 2... son mari est condamné, sans aveu, sans scène de crime, sans corps. Chapitre 3, il est en prison et il fait appel. Chapitre 5, et donc il avoue, il emmène les enquêteurs sur les lieux. On peut écrire le chapitre suivant, un nouveau procès va avoir lieu, manque les obsèques. Entre maintenant et le prochain procès, il va y avoir les obsèques de Delphine Jubilard. On va les suivre sur BFM TV. On sait déjà comment ça va se passer. On va voir les enfants qui vont marcher. Bien sûr. On va voir les amis IES de Delphine qui se sont tant battus pour la vérité. Cette pancarte qui est posée devant chez eux, aidez-nous à retrouver Delphine,
n'existera plus.
On va l'enlever. Et là, il va y avoir des avocats qui vont dire si ce chapitre 5, les obsèques existent, c'est parce que celui-ci, notre client, Cédric Jubilard, a avoué et c'est grâce à lui que Delphine Jubilard a une sépulture.
Et là, un mot de conclusion, juste Dominique.
Ça peut changer les choses.
Pourquoi cette affaire fascine tant, difficile à dire en quelques secondes?
Moi, je dis parce que c'est une affaire dans le désordre. Une affaire dans le désordre, c'est une espèce de mécano criminel. Dans le désordre, comme l'esprit de Cédric Jubilard, comme le monde dans lequel il vivait, comme cette baraque, même pas finie, déconstruite. Cette vie qu'il imposait à Delphine Jubilard, elle n'en voulait plus. Elle voulait plus vivre avec lui. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. C'est une femme qui veut quitter son mari, qui a une nouvelle vie, un nouvel amour. Et lui la tue parce qu'il veut pas la laisser partir. Il considère qu'elle lui appartient.
Merci beaucoup, Dominique Rizet, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h47 et vous êtes bien toujours sur BFM TV et RMC.
Merci Marie Chantré. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Les vendanges de plus en plus tôt et cette année encore, ça pose d'énormes soucis de recrutement, notamment pour les saisonniers. Puis avant le match pour la troisième place, la petite finale demain France-Angleterre, les dernières infos sur la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 9h10, vous êtes bien sûr à RMC. Les GG arrivent après le journal de 9h. On va d'abord prendre des nouvelles de la Coupe du Monde, le mondial d'Antoine avec Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Dans un instant, le match des perdants, c'est demain avec les Bleus. Mais avant cela, on va partir d'abord faire les vendanges avec vous, Vincent Chevalier. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
C'est le choix de la rédaction ce matin. Vous êtes le correspondant RMC dans la région lyonnaise. Les récoltes seront certainement encore en avance cette année. Avec la météo des derniers mois, les grappes de raisin ont pris de l'avance dans leur maturité. On parle de début août, une précocité qui étonne même les viticulteurs, là Vincent.
Eh oui, accroupi au milieu de ses vignes dans les coteaux du Lyonnais, Pierre Tollet saisit une grappe sur un cep d'un cépage gamay, une grappe multicolore, signe de la véraison, ce moment de l'année où les raisins mûrissent.
À l'intérieur de cette grappe, on a des grappes à différents stades de développement, avec justement certaines grappes qui commencent à prendre cette couleur, on va dire, légèrement bleutée, enfin violet-bleu, qui est en fait la marque que le raisin devient mature et bientôt prêt à être récolté.
Et traditionnellement, les vendanges débutent 45 jours environ après la véraison, un stade habituellement attendu ici fin juillet.
Là aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près une quinzaine de jours d'avance sur une année, on va dire classique, avec la particularité cette année de subir de grosses pressions par rapport à la chaleur. Voilà, ce qui fait que voilà le sec aussi commence à arriver gentiment, donc ça serait bien d'avoir un petit peu d'eau.
Effectivement, dans ces vignes, il n'a pas plu depuis début juin.
Une telle avance, Vincent, c'est du jamais vu pour la plupart de ces professionnels.
Effectivement, Basile Ricaume peut en témoigner. Pour ce viticulteur du Gard, les vendanges sont pour l'instant prévues entre le 5 et le 10 août. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'il assiste à une telle précocité et ça pose plusieurs problèmes.
Toute la partie logistique, pour nous, ça change parce qu'il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut également aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des jours de congé et partir plus tôt. Ça paraît rigolo que dit comme ça, mais c'est une vraie réorganisation dans les entreprises. Il faut préparer le matériel à la vigne, il faut préparer le matériel à la cave. Donc ça, c'est la partie logistique, mais je dirais c'est la moins perturbante. La plus perturbante, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique de la vigne. C'est-à-dire, est-ce que la vigne, le cycle végétatif s'est fait vite? Est-ce qu'on va arriver à avoir des raisins suffisamment mûrs pour arriver à faire des vins suffisamment qualitatifs? Est-ce que malgré cette vitesse-là, le cycle va se finir jusqu'au bout?
Ah oui, car si les très fortes chaleurs reviennent, la vigne pourrait faire un blocage, arrêter son évolution pour se protéger, ce qui, pour le coup, décalerait le début des vendanges.
Ah, difficile dans ces conditions de recruter, surtout quand la main-d'œuvre se fait déjà désirer.
Oui, dans les vignes, les habitués se font de plus en plus rares. Il faut donc recruter plus. Exemple, dans le Jura, l'association pour l'emploi dans le milieu rural, Soelis, cherchait 450 personnes l'année dernière contre 600 cette année. Alors, seul espoir, attirer des étudiants, pas encore pris par la rentrée scolaire de septembre. Et encore une fois, beaucoup de domaines s'appuieront sur la main-d'œuvre étrangère. Dans certaines régions, elle peut représenter la moitié des vendangeurs.
Alors, on l'a compris, hein, cette année est particulière, Vincent. Mais la précocité des vendanges n'est pas tout à fait surprenante en fait.
Non, effectivement, depuis les années 80, le raisin est récolté de plus en plus tôt, 30 jours plus tôt qu'il y a 30 ans dans certaines parcelles. Résultat du réchauffement climatique qui accélère le processus de développement de la vigne. Il faudra donc s'y habituer et surtout s'adapter, selon Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
C'est le changement climatique plus globalement qui remet en cause les relations au terroir, et donc la relation entre un terroir et la qualité d'un vin. Et donc ça suppose de s'adapter, changer de cépage, de mode de conduite, de mode de technique de vinification, d'organisation des vignobles dans l'espace, en changeant les parcelles, en choisissant des parcelles moins exposées au soleil, par exemple.
Adaptation indispensable car au-delà de la crise climatique, la viticulture traverse aussi une crise commerciale. La consommation mondiale de vin ne cesse de diminuer, moins 14% entre 2018 et 2025.
Des vendanges de plus en plus précoces. Le choix de la rédaction ce matin sur RMC avec Vincent Chevalier, correspondant RMC dans la région lyonnaise. Merci beaucoup Vincent. Allez, on va parler foot. La France doit sauver l'honneur.
RMC, le mondial d'Antoine.
Le mondial d'Antoine, Antoine Salva, journaliste RMC Sport. Les Bleus doivent donc finir le travail demain à l'occasion de cette petite finale.
Tout à fait Sébastien, 23h samedi, ils affronteront l'Angleterre à Miami. Objectif, monter sur le podium de ce mondial comme en 1958 et en 1986. Et pas évident de se remobiliser comme le disait Ryan Cherki après l'élimination face à l'Espagne mardi soir.
On verra, mais pour l'instant on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
Et oui, se remobiliser, il le faudra bien car il y a un match à jouer, certes bien loin du prestige d'une finale. Alors avec quels joueurs sur le terrain? Ceux qui ont l'envie, on pense à Mbappé courant après le titre de meilleur buteur du mondial, ceux qui ont peu joué, Gusto, Lacroix ou Akliouche, ou ceux qui n'ont pas joué du tout, les champions du monde 2018, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez. Une certitude, ce ne sera pas le match des coiffeurs et un décrassage si on se fie à la décision du sélectionneur de ne pas libérer ses joueurs la nuit dernière dans les rues de Miami. Vous l'aurez compris, Didier Deschamps veut gagner.
Ouais. Et c'est pas anodin, hein, parce que ce sera son dernier match à la tête des Bleus.
Tout à fait, après 14 ans, la Dèche va se retirer sur son 187e match dans le survêt de sélectionneur. Un record en France, longtemps critiqué pour ses principes de jeu restrictifs et un jeu peu emballant. Malgré les talents à disposition, l'ancien capitaine a fini par trouver un peu plus de reconnaissance durant ce mondial, en assumant par exemple d'aligner plus de joueurs offensifs. Dimanche, il pourra se retourner sur une aventure riche en constance, mais finalement peu en trophées. Certes, champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2021. Il aura échoué en finale de l'Euro 2016 et en finale du Mondial 2022.
Et forcément, Antoine, on pense à la suite, à l'arrivée du nouveau boss, quand il va prendre la relève.
Et oui, Sébastien, le successeur tout désigné de Didier Deschamps, vous le connaissez très bien, un héros que vous avez vu de nombreuses fois à la télé quand vous étiez petit.
Son nom, il le signe à la pointe de l'épée.
Non, non, ce n'est pas Zorro, Bernardo, mais bien Zizou, annoncé depuis des mois, attendu depuis des années. Et l'évocation du nom de Zinedine Zidane fait frétiller tout le foot français. Triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real. Le champion du monde 98 pourrait être officiellement nommé dès la semaine prochaine par le président de la fédération, Philippe Diallo. Son arrivée est d'ailleurs préparée dans le plus grand des secrets. Et du haut de son immense carrière, il aura certainement quelques conseils avisés à délivrer à ses futurs joueurs.
C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussette, chaussure, puis la jambe droite.
Revenons à cette petite finale face aux Français. Les Anglais vont eux aussi devoir se relever après l'élimination face à l'Argentine.
Et ce n'est clairement pas la joie non plus chez nos amis britanniques. Les Anglais rêvaient d'un titre après le dernier glané en 1966. Les joueurs de Thomas Tuchel auront un jour de moins pour se remettre de cette défaite cruelle. Et le sélectionneur est bien conscient de la difficulté.
Aucun de nos joueurs ou des joueurs de la France n'a envie de jouer ce match. Ils ont tous envie de jouer la finale. Ils veulent jouer pour remporter la Coupe du Monde. Mais c'est comme ça.
Mais eux aussi auront à cœur d'achever cette compétition de la meilleure des manières, sachant que leur capitaine Harry Kane va fêter ses 33 ans dans quelques jours et il pourrait disputer son dernier match de Coupe du Monde avec la sélection anglaise.
Antoine Salva, merci. France-Angleterre.
Vous l'avez pas assez entendu. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Allez, c'est la dernière, je vous le promets.
23h, le coup d'envoi samedi soir. Demain, donc, ce sera à suivre en direct sur RMC en intégralité. RMC radio officielle de cette Coupe du Monde en direct des États-Unis. Demain, de 20h à 3h du matin. Allez, les GG, dans un instant, quel est le programme, Olivier Truchot?
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les grandes gueules arrivent. Abel Bouilly, l'éducateur. Emmanuel De Villiers, l'entrepreneur. Sandrine Pégan, l'avocate. On va revenir notamment sur l'affaire Jubilard, avec la découverte d'une partie du corps de Delphine, sur indication de celui qui l'a tué, Cédric Jubilard. Alors Cédric Jubilard est très coopératif. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle sincérité ou est-ce que, une fois de plus, c'est de la manipulation? On en parlera dans les grandes gueules avec vous au 32-16.